quelques rencontres avec la folie. Partie 3. La folie en héritage.
Ok. Mais voilà, en fait, c'est quelqu'un qui est très très proche, qui est décédé il y a pas longtemps, en fait, il y a 2 ans quand même. Ou 1 an, je sais plus. Et c'est ma tante. Toute sa vie, elle l'a passée entre, je sais pas, entre folie, maladie, vie, je sais pas très bien. C'était la plus petite sœur de ma mère. Oui, enfin, ils étaient 13 enfants. Elle était la dernière. Elle est née quand, enfin. À sa naissance, sa mère est morte. Et elle est restée. On l'a prise, on l'a mise dans une. Enfin, chez une tante, je ne sais pas quoi. Et ma mère me disait que c'était dû à cette naissance où sa mère, sa propre mère, est morte, qu'elle est devenue. Enfin, qu'elle est. Oui, qu'elle est devenue malade, folle, enfin c'était... Maladie et folie, c'était toujours un peu la même chose.
Une rencontre que j'ai faite avec la folie, c'était assez petit enfant, c'était familial, c'était dans la lignée maternelle, ma grand-mère. Qui a été diagnostiquée bipolaire et que j'ai peu connue parce qu'elle est décédée quand j'étais assez petite, mais dont la folie a imprégné la façon dont j'ai eu de grandir, puisqu'elle a imprégné fortement ma mère et la manière dont elle s'est construite, à savoir que ma mère n'a pas pu être élevée par sa propre mère puisque celle-ci a été internée pendant les 15 premières années de vie de ma mère, de sa fille. Et que forcément, ça a créé un impact fort sur le lien qu'elles avaient et sur le lien à la maternité tout court. Puisque c'est donc à la naissance de ma mère que sa mère a été diagnostiquée et a dû être internée. Moi, je viens d'une famille, en tout cas de ce côté-là, qui est juive ashkénaze d'Europe de l'Est et qui a été détruite par la guerre et par les camps. Qui, notamment cette grand-mère, a passé 4 ans en camp et qui a perdu sa famille là-bas et qui en est sortie démolie, notamment en termes de physique, mais aussi de santé mentale. Et c'est resté très, très, très présent toute ma vie quand j'ai grandi, à savoir que je venais de là, que je venais d'une famille qui avait été démolie par la guerre, par la barbarie nazie, et dont la santé mentale avait été largement atteinte par ces événements. Je parle de ça parce que la première rencontre que je me souviens d'avoir faite avec la folie familiale, c'était une sœur de cette grand-mère, qui elle aussi a réussi à survivre au camp, en étant bien traumatisée, mais qui a réussi à se reconstruire, et qui m'a dit, quand j'avais 6 ans, à un repas de famille, fais très gaffe quand tu grandiras, notamment au début de l'âge adulte, à ne vivre aucun traumatisme parce que ta folie peut se révéler à ce moment-là. Et elle a ajouté, je te le dis aujourd'hui, tu ne feras réellement partie de la famille que quand toi aussi tu seras diagnostiquée. J'avais 6 ans. Et j'ai pas tout compris, mais j'ai compris que je venais d'une famille qui était quand même bien barjot, et que s'il se passait quoi que ce soit d'un peu difficile dans ma vie, je risquais de rejoindre le côté barjot des Rosenfeld. Et j'étais terrorisée de ça, et en fait, toute mon adolescence, j'en ai pas parlé de ce discours qui m'avait été tenu ce jour-là, je l'ai gardé très longtemps en moi. Mais par contre, à chaque fois que je sentais des remous intérieurs, des incohérences, des pensées irrationnelles, des pensées de mort parfois, même si elles n'ont jamais été envahissantes, mais je pense qu'on on est tous plus ou moins visités par notre finitude à un moment donné. Je guettais l'ombre de la folie qui s'abattait sur moi et je redoutais. Et voilà, quand j'ai eu mon premier grand chagrin d'amour et que j'étais inconsolable et que mes pensées n'allaient que vers l'être perdu, je me demandais si la folie n'était pas venue me cueillir et si je n'allais pas tomber dans une psychose obsessionnelle qui terminerait très 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 mal. Et je pense qu'aujourd'hui, ça explique aussi, paradoxalement, ma crainte, mon appréhension à consulter parfois le soin des psychologues, alors que je fais un métier qui pourrait me mettre dans des situations régulièrement. Je suis dans le travail social avec des gens qui vont très très mal et qui sont en souffrance et à qui je conseille régulièrement d'aller vers le soin psy eux-mêmes, sans pour autant y aller moi-même. Je pense que voilà, il y a un peu ce truc-là de peur de ma propre folie qui vit encore.
Il y a pas mal d'années, j'ai fait une formation payée par le chômage pour retourner à l'emploi de self-leadership. C'était complètement barré, on faisait autant d'espèces de méditations pour trouver un animal totem que des trucs de développement personnel. Fin. Et un des exercices, on nous avait dit, vous allez penser, c'était un héros, une héroïne pour vous, ça pouvait être une vraie personne ou un personnage fictif, quelque chose, mais qui vous a marqué, et notamment pendant l'enfance. Et puis du coup, l'exercice allait être de voir c'était quoi chez cette héroïne qui nous touchait, comment elle nous avait porté, accompagné et tout ça. Moi, j'étais un peu perdue, genre, je cherchais. J'appelle des vieux potes d'enfance. Il y en a un qui me dit les Beatles, je me dis, mais tu planes complètement. Et je finis par. Je demande à mes parents, forcément. Puis, ouais, je sais pas, j'en sais rien. Bon. Et puis, mon père me rappelle, il me dit, quand même, il y a une personne qui t'a porté, dont tu étais fan. Enfin, c'était vraiment très importante, c'est Miette. Et là, je dis, bah oui, évidemment. Et donc, Miette Ripper, sculptrice Barjot. Vraiment, qui était installé sur un terrain entre l'école primaire et l'école maternelle. Un terrain vague entre deux dans les quartiers nord de Marseille, derrière un hôpital psychiatrique. Et la ville de Marseille lui avait commandé un terrain de jeu pour les enfants. Elle est restée 20 ans, à la fin de manière totalement illégale, en dormant sur une caravane sur le parking, en se battant pour construire ce qu'elle appelait écologie. Un jardin d'éveil sensoriel et sensitif. Et moi, j'étais une école freinée déjà, j'arrivais déjà pas à être à l'école et donc j'étais tout le temps au chantier parce que du coup c'était un chantier. Et cette femme, enfin, je ne parlais que d'elle. Et donc du coup j'ai dû faire l'exercice de savoir c'était quoi qui m'avait autant, enfin qui me portait autant. Et en racontant, je me suis rendu compte que c'était sa démesure. En fait, j'ai vraiment dit, c'est parce qu'elle était folle. Et j'ai gagné de ça. Enfin, ça a été un cadeau d'être à la rencontre de cette personne qui avait cette folie créatrice. C'était la partie toute romantisée, on va dire, très positive, et qui donc pouvait œuvrer à quelque chose qui la dépassait complètement. Et qui allait de une personne pouvoir toucher plein de personnes, de faire quelque chose à la mesure de beaucoup, juste avec ses deux mains, parce qu'elle avait un feu plus fort que chez d'autres en fait.
Je vais raconter une rencontre avec la folie. Qui s'est fait petit à petit parce que c'était une personne que je fréquentais très près puisque c'était mon grand-père. Et au départ, lorsque j'étais enfant, c'était très amusant parce que c'était un personnage très fantasque qui se déguisait et qui venait faire des sketchs devant tout le monde pendant les repas. C'était vraiment très amusant. Et puis, il me prenait dans sa chambre pour me raconter des histoires d'horreur où il faisait des bruitages. Enfin, c'était vraiment toute une histoire, en fait, ce monsieur. Et j'aimais beaucoup. Il me racontait des choses toujours fantastiques sur des objets où il y avait des yeux de monstres au fond, des boîtes qu'on ne pouvait pas ouvrir. Donc ça a développé un imaginaire assez fou chez moi. Et puis après, quand j'étais adolescente, j'ai découvert qu'il enregistrait un peu comme Massou, comme Jean-Marie Massou, des cassettes pour un faux public, en fait, d'enfants. On lui racontait des histoires à des enfants, en fait, qui n'étaient pas là, avec tout un tas de bruitages aussi et tout. Et puis, à un moment donné, j'étais aussi adolescente, finalement, il a commencé à avoir des... Je l'entendais dans sa chambre, il parlait tout seul, et il pensait qu'il était avec des femmes, en fait. Je pense qu'il avait des super aventures sexuelles avec plein de femmes formidables. Et j'entendais tout ça, mais c'était pas très parlé dans la famille à ce moment-là. Et puis un jour, finalement, il a cru que tous ces objets étaient possédés par le démon dans sa chambre. Il habitait dans un HLM, donc il a jeté tout ce qui pouvait passer par la fenêtre. Et il a commencé à avoir des hallucinations. Et on a dû appeler, en fait, à un moment donné où il était menaçant, des personnes qui venaient chercher. J'étais très jeune. Et donc j'ai vu mon grand-père, qui était un monsieur très grand et très fort. Et il fallait au moins 4 pompiers pour réussir à l'amener. C'était très très violent, en fait, puisque je l'ai vu se faire rattacher sur une civière et ça a été horrible. Et après ça, il a été en maison de retraite. Et c'est ce dont on discutait avec une amie hier. On se disait, mais c'est une personne qui aurait besoin de soins, en fait, tout à fait autre. Et finalement, il est resté dans cet endroit où on met les gens... Et on ne sait pas trop quoi en faire, et on sait qu'ils ne vont pas trop tarder à mourir, quoi. Voilà, c'est une histoire un peu triste à la fin, mais quand même, du coup, cette personne-là, elle m'a... Dans sa personnalité assez magnifique, elle m'a apporté énormément de choses qui me servent toujours aujourd'hui, en fait, dans la vie, de joie.
Peut-être qu'on ne disait pas folie, mais qu'on disait maladie par pudeur. Et je pense que elle-même s'estimait folle parce que, enfin dans mon souvenir c'est comme ça, parce qu'elle se voyait à la télévision. Et donc à partir du moment où elle disait qu'on parlait d'elle à la télévision, c'est qu'il fallait qu'elle entre à l'hôpital. Voilà, parce qu'elle disait que ça n'allait plus. Mais je ne sais pas si c'est elle-même qui estimait que ça n'allait plus ou bien qu'on le lui ait dit. Voilà. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est occupé de moi quand j'étais bébé, m'a dit ma mère. Et parfois, je me disais tout au long de ma vie, est-ce que je risque pas de lui ressembler ? Donc, ça m'a fragilisée dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, quand moi-même j'ai eu des enfants, elle s'en est occupée beaucoup. C'est peut-être la seule qui s'en est occupée parce que ma mère n'était pas là, n'était pas disponible. Et mes enfants l'adorent et ne l'ont jamais vue comme une personne malade ou folle. Donc voilà, dans ma tête, je me dis que le statut de la folie peut changer d'après les regards ou d'après le temps de vie. Voilà, on peut être considéré comme fou un temps et puis après plus, d'après le temps qui passe, en fait. Et c'est quelqu'un qui a marqué des générations comme ça.
Du coup, ce mot de folie, pour parler de toi ou de ta famille, tu l'as mis très tôt ?
Je l'ai mis très tôt, ouais. Je l'ai mis vraiment enfant, parce que ma mère me parlait des comportements que sa propre mère avait pu avoir et dont elle avait pu avoir honte en étant elle enfant à ce moment-là, adolescente. Et mon grand-père, le mari de cette femme malade qui en parlait dans ces termes-là, en me disant « Non, mais de toute façon, elle était complètement folle, je suis bien tranquille maintenant qu'elle n'est plus là. » Même si, il est toujours resté à ses côtés, et il m'a toujours dit « On ne quitte pas quelqu'un qui va pas bien, et c'était ma responsabilité de rester à ses côtés dans sa maladie. » Mais oui, donc enfant, ça faisait partie du récit familial, c'était qu'une partie d'entre nous avait souffert de troubles psy, mais c'était une loyauté, ça faisait partie de qui on était, et c'était pas tabou. Et c'est peut-être de ça dont j'ai souffert, que c'était beaucoup parlé, très présent. sans que j'aie pu moi-même vraiment avoir des souvenirs de cette grand-mère, puisqu'elle est décédée quand j'étais très petite. Donc je m'étais fait une image aussi de cette folle, de cette grand-mère folle, mais abîmée, mais malheureuse, mais folle, qui pourrait revenir me hanter de l'intérieur et qui pourrait être la cause d'une folie à venir personnelle.
L'aspect magique et qui moi, me fascinait, qui m'avait, que je voyais à 30 ans, du coup, beaucoup plus tard, comme un grand cadeau de savoir que ça pouvait exister, qu'en fait, on pouvait avoir ce feu-là, que c'était de ce feu-là que sortait de la magie et qui allait servir plein d'autres gens, et que donc la folie, elle était ultra précieuse. Et en même temps, de mon regard de 30 ans, je pouvais aussi me rendre compte de la souffrance de cette personne, de là où elle s'est épuisée, et puis je l'ai revue après, j'ai repris contact avec elle, elle est vraiment dans une situation de souffrance et de détresse, elle n'a plus jamais pu retourner à cet endroit-là, elle a dû tout abandonner, et du coup, ce grand feu a fait que l'objet pour elle n'était pas jouissable, enfin, ça c'était la contrepartie de cette folie, c'est qu'il y avait quelque chose, enfin je dis le mot folie sur... très sûrement à tort, mais c'est comme ça que pour moi ça... Et de... Ouais, qu'elle avait... Ça avait été une dépense d'énergie démesurée aussi pour elle, qui l'a laissée dans le creux, en fait. Et que ce... Et qu'au final, en plus, ce lieu est à l'abandon depuis moins 10 ans. Ouais, ça fait moins 10 ans qu'elle a dû quitter le lieu, que c'est délabré, que plein de choses ont été volées, que rien n'est aux normes, donc la ville de Mar... enfin, les pouvoirs publics ne veulent pas que ça soit accessible aux enfants. Ça représente en plus, pour les gens autour, la folie de quelqu'un. Donc il y avait... elle faisait énormément de mosaïques, et c'était du gros œuf, quoi. Donc il y avait une caverne, la caverne de l'évolution, où on rentrait dans un tunnel à quatre pattes, couvert de moulage de tripes de porc pour être comme dans le ventre, dans la matrice, avec des glouglouteurs qui faisaient l'effet de ce qu'on entendait dans le ventre d'une mère, pour finir par sortir dans la caverne, le mythe de la caverne, là, où il y avait un périscope qu'elle avait récupéré de l'armée, où d'un coup tu pouvais voir le monde depuis l'intérieur. Et tu sortais dans la cuisine éclatée, qui était le lieu de la rencontre et de la convivialité. Enfin, et tout ça était fait avec du gros béton. Enfin, il y avait souvent des énormes camions. Enfin, tout était démesuré. Et c'est une très belle histoire qui était racontée et a invité tout le monde. Et en même temps, qui est là et qui est abandonnée parce que trop, je crois. Ouais, voilà. Et du coup, c'est allez, la leçon. Enfin, pour moi, dans l'exercice qu'on m'avait demandé de faire, est-ce qu'on peut arriver à piocher un peu de l'énergie du grand feu pour faire une forme mesurée, quoi?
Et cette formation, c'est la première fois que tu t'es dit « Ah là, ce qu'il y avait chez cette femme, c'était de la folie
» De cette manière-là, oui. Après, elle était vraiment dénommée comme la Barjo. Okay. Ouais, c'était la fadade. Enfin, voilà. Mais avec toute la... l'humour, la tendresse et en même temps le tabou, l'interdit que ça pouvait contenir, le fou du village, quoi, un peu, qui a sa fonction, en fait. Ouais. C'est la première fois que je le voyais comme ça, enfin, de manière plus complexe que juste cette petite dénomination a priori innocente de « Ouais, mais il était complètement barjo ». Aujourd'hui, j'en garde d'ouvrir un peu les vannes, de pas chercher à contrôler, enfin voilà, et de prendre, d'aller au risque de que ce soit trop. J'en garde aussi un apprentissage, qui est peut-être pas à voir avec la folie, mais de faire, d'aller à la matière, parce qu'en fait, c'était ça aussi qui me touchait, que moi, dans mon truc de contrôle dès mon enfance, surtout pas, et si je me trompe, et si c'est pas ça qu'il fallait faire, et je sais pas quoi. Donc, la liberté, en fait. J'en retiens la liberté et le risque, la prise de risque.
Je sais que de l'extérieur, du fait de mon métier d'éducatrice spécialisée, j'ai quand même eu des cours de psychologie, j'ai eu des cours de, sur les différentes névroses, les différentes psychoses, de psychanalyse. Enfin, j'ai une théorie quand même par rapport aux différents troubles psy qui est assez... qui n'est pas infinie, mais qui est quand même solide. Et je sais que de l'extérieur... Enfin, pour parler de personnes extérieures, que ce soit dans mon cercle personnel ou dans mon cercle pro, je ne vais absolument jamais employer ce mot-là. C'est un mot qui, pour moi, ne regarde que ma lignée, que mes propres peurs et mon propre héritage, mais que je ne vais jamais diriger sur quelqu'un d'autre. Je vais utiliser des mots peut-être plus techniques, plus... Ouais, plus précis.
Et quand tu dis que ça t'a fragilisé, c'était dans une peur de quelque chose de génétique, de qu'est-ce que quand t'as eu peur de lui ressembler, c'était le fait que ce soit un modèle.
Mais peut-être parce que il y avait un jugement de la part de ma mère, de ma propre mère, sur sa petite sœur. Je ne sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la relation à la mère qui est compliquée. Et j'avais peur peut-être d'être prise dans ce jeu de relation et de maladie. Voilà, je voulais m'en éloigner absolument. Et c'était très difficile parce qu'elle était très proche. Voilà.
Et du coup, au final, t'as gagné quoi de cette relation ?
Mais que... Ouais. En tout cas, que mes enfants l'adorent et l'ont remis sur pied, quelque part. Lui ont donné vie.
Est-ce que tu veux dire son nom ?
Ouais. Maurice. Momo.
Et est-ce que t'aurais envie de dire quelque chose à Maurice ?
Ouais. Merci beaucoup. Je transmets tout ton imaginaire à mon fils.
Quelques rencontres avec la folie est une série en 3 épisodes enregistrée à l'occasion de la fête des 3 ans de la broussaille.
L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Justine pour Radio Vessivière à partir d'une idée de la broussaille.
Pour plus d'informations sur ce lieu de création et de répit, rendez-vous sur leur site internet labroussaille.org et retrouvez tous les épisodes sur le site de la radio. C'est radiovassivière.org.